initiative Vendée Bocage, avec le soutien des communautés de communes du Pays du Bocage et de la région Pays de la Loire, présente Entreprendre Ensemble. Découvrez les super pouvoirs des entrepreneurs.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Digue Radio pour votre rendez-vous Entreprendre Ensemble, l'émission qui contribue à développer les super pouvoirs d'entreprendre. Entreprendre Ensemble, c'est une émission initiée par Initiative Vendée Bocage du réseau national Initiative France, une association qui accompagne les créateurs et les repreneurs d'entreprises et qui est surtout très dynamique sur notre territoire vendéen. Alors la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille et il peut être utile de noter que derrière un entrepreneur se cache tout simplement et bien un être humain avec ses forces et ses faiblesses. Il arrive ainsi que le bien-être du dirigeant soit malmené. Oui, un entrepreneur possède de super pouvoirs sans aucun doute, mais il n'est pas un super héros pour autant. C'est ce sujet que nous choisissons d'aborder aujourd'hui car il reste parfois tabou et pour autant absolument central. Et c'est aussi l'occasion de valider l'idée que quelle que soit l'étape de la vie du chef d'entreprise, eh bien, il y a des solutions pour l'accompagner. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir des invités capés en la matière, puisque je reçois Myriam Boutera, chargée de développement en santé au travail des chefs d'entreprise, sentinelle du réseau des CMA, donc la Chambre des métiers de l'artisanat, dans le cadre du dispositif APESA, aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, et Myriam est aussi tout nouvellement secouriste en santé mentale. Elle partagera le micro aujourd'hui avec Olivier Morin, qui est président à la fois de la CPME des Pays de Loire et du groupement Prévention Agréé. Mais Olivier est aussi chef d'entreprise dans l'architecture, la maîtrise d'œuvre et la promotion immobilière à la chaise Le Vicomte pour son entreprise Home. Je suis aussi avec Jean-Yves Germain, qui est avec nous et qui, lui, est président de l'antenne vendéenne 60 000 Rebonds, une association qui accueille reçoit les entrepreneurs post-liquidation. Et enfin, Isabelle Rotureau est aussi avec nous ce matin. Et Isabelle, vous la connaissez puisqu'elle est la directrice d'Initiative Vendée Bocage. Alors bonjour à tous les trois, à tous les quatre. Je dis trois et demi parce que Isabelle est à moitié, elle moitié avec nous, elle nous rejoint. Donc on est ravis de l'accueillir aujourd'hui. En tout cas, bienvenue à tous les quatre. Et avant d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais, Isabelle, que tu puisses introduire cette idée et pourquoi, et que tu nous partages la motivation pour mettre sur la table un tel sujet.
Donc déjà, bonjour à tous. C'est une thématique qu'on savait dès le démarrage des émissions qu'on souhaitait l'aborder. Pourquoi ? Parce qu'on rencontre quand même de nombreux chefs d'entreprise au vu de notre travail, qui sont formidables, hein, qui font plein de belles choses, etc. Mais ça reste malgré tout des êtres humains avec certaines failles, etc. Et donc l'idée de cette émission, c'est encore donner des informations complémentaires pour qu'ils sachent qu'il y a plein de solutions, plein d'acteurs pour pouvoir les soutenir tout au long. Donc après, c'est à eux de choisir, bien entendu. Mais voilà, qu'il y a une écoute sur l'ensemble des acteurs. Et s'ils ont besoin, s'il y a une nécessité, et qu'ils n'hésitent pas. Voilà, et c'est vrai que c'est ça le plus compliqué, en fait. C'est de pouvoir exprimer ces difficultés. Et donc, il y a du monde autour d'eux, tout simplement.
On va en parler de tout ça, évidemment, avec nos invités. Mais Isabelle, toi, dans ton expérience dans Initiative Vendée Bocage, quelle place a justement ce bien-être et cette santé du dirigeant ? Qu'est-ce que vous constatez, vous, au quotidien ?
On constate qu'ils travaillent beaucoup, ouais. beaucoup, que parfois ils peuvent être seuls, que parfois la difficulté elle passe après leur travail, hein, tout simplement. L'objectif, c'est vraiment qu'ils sachent tout simplement qu'il y a du monde autour d'eux.
Des mains tendues.
Et puis qu'il y a des solutions. Hein. Là, c'est pas toujours, l'objectif final, c'est pas toujours quand il y a une vraie difficulté. En fait, c'est vraiment qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils puissent exercer leur métier tout simplement, mais avec quelques petites solutions.
D'ajustements et des solutions. Des ressources, en tout cas.
Mais la majorité, en fait, enfin voilà, ils sont comme ça pour autant, bien entendu. Mais c'est parfois sur une période donnée qu'il faut pas
ponctuellement.
Ponctuellement.
Myriam, alors moi j'adore parce que toi tu es nouvellement, je l'ai dit en introduction, secouriste en santé mentale. Rien que le titre. J'ai l'impression que ça repose quand même l'urgence de la santé mentale. Est-ce que tu peux peut-être nous décrypter un petit peu ce que ça veut dire, tout ça ?
Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc nouvellement secouriste en santé mentale. Alors, comme j'aime à dire, il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale, c'est le bien-être mental et psychologique qui est nécessaire à chacun, qu'on soit entrepreneur, jeune, de n'importe quel âge et dans n'importe quelle activité professionnelle. En tant qu'individu, on a une santé mentale et il n'y a pas de tabou par rapport à ce terme-là. On en entend parler beaucoup plus depuis notamment le Covid. Et il est important, du coup, pour les entrepreneurs d'être en vigilance par rapport à leur propre santé mentale. Isabelle l'a précisé, on a des chefs d'entreprise qui, globalement, dans les TPE-PME, donc très petites et moyennes entreprises, travaillent plus de...
Ceux sur lesquels, toi, en tout cas, vous concentrez.
Bien évidemment, au niveau de l'artisanat, travaillent en moyenne 55 heures semaine, sachant que derrière, il y a des entreprises qui ont une rentabilité, de la trésorerie, et puis d'autres qui, malgré les heures passées au travail ont des situations très compliquées et malheureusement le contexte depuis bientôt 3 ans qui ne fait qu'enchaîner les crises au niveau économique, financier, crise énergétique vient rogner les marges, vient rogner la rentabilité et vient fragiliser beaucoup de trésorerie. Donc l'idée, elle est vraiment en fait dans notre approche, dans le cadre de mes fonctions à la Chambre des métiers des Pays de la Loire, c'est vraiment de ne pas décloisonner la santé de l'entreprise de celle de l'entrepreneur. Isabelle parlait de prendre soin de soi. C'est très important pour un chef d'entreprise de ne pas s'oublier. Il priorise majoritairement la vie, le développement, voire la survie de sa structure, mais majoritairement aussi au détriment de son propre état, qu'il soit émotionnel. Beaucoup sont dans une surcharge émotionnelle, surcharge mentale, et donc il est précieux en fait de prendre soin de soi. Et en tant qu'organisme consulaire avec aussi les syndicats professionnels, nous agissons sur ces sujets-là parce que c'est devenu un incontournable dans le quotidien de l'entrepreneur. D'où l'importance de la notion de prévention.
Tout à fait, et c'est justement, je crois, aussi le message d'Olivier. Olivier, donc toi, à la CPME, tu fais partie donc de ce groupement prévention agréé. Est-ce que tu peux nous en parler aussi et peut-être nous indiquer quel lien vous avez ensemble ?
Alors, le groupement de prévention, bonjour à tous d'abord. Le groupement de prévention agréé des Pays de la Loire est d'abord organisé par département avec un tissu de bénévoles. Et l'objectif de cette association qui est prévue par le Code du commerce est d'accompagner les chefs d'entreprise suffisamment tôt dans leurs premières difficultés pour qu'elles puissent passer ces difficultés et donc pérenniser l'avenir de l'entreprise. Alors évidemment, ça se fait aussi en accompagnant l'état de santé du dirigeant, parce que parfois la difficulté, elle ne tient qu'à ça, à la fatigue, à un état finalement de... j'en ai trop fait, j'en peux plus, j'ai envie de tout arrêter, de ras-le-bol. Et donc, voilà, il faut aussi parfois, et c'est souvent le cas d'ailleurs, accompagner le dirigeant d'un point de vue psychologique. Et donc ça, forcément, ça crée des complémentarités avec ce que fait Myriam. Ce qui est la clé, en fait, de cette association, c'est de toucher suffisamment tôt le chef d'entreprise.
Suffisamment tôt, c'est ça qui est la clé.
Extrêmement important. Ouais. Chef d'entreprise a tendance à s'isoler et encore plus quand il a des difficultés parce que, faut l'avouer, on est tous un petit peu orgueilleux, on a notre fierté, je vais réussir, puis t'as vu le copain à côté, il y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas ?
Il y arrive, ce qu'on voit.
Voilà, c'est ce qu'il croit.
ce qu'il croit.
Et donc on s'enferme dans cette... dans ce syndrome du joueur, finalement, c'est je vais y arriver, je vais me refaire.
Tu m'en as parlé déjà, ce syndrome du joueur.
Et c'est ça qu'il faut absolument éviter et donc anticiper, nous, en tant qu'association, pour les accompagner, et donc les toucher suffisamment tôt, dès lors qu'il y a une petite baisse de rémunération, qu'il y a un carnet de commandes qui s'affaiblit, les premiers impayés, des choses comme ça, des petites alertes qu'il va falloir identifier pour qu'on puisse cueillir le chef d'entreprise assez tôt pour l'accompagner.
Alors justement, sur ces signes qui peuvent alerter, tu en as évoqué quelques-uns, ils sont parfois imperceptible. Tu évoquais par exemple un cahier de commandes qui baisse. On peut très bien se dire, oui, mon cahier de commandes baisse, mais bon, c'est bon, ça va aller le mois prochain, hein, c'est juste une passade. Et puis après, ne plus se rendre compte qu'en fait, ce n'est qu'une passade. Quels sont les signes, selon vous, qui peuvent alerter dès qu'on a un signe incontournable? Tu en as évoqué certains, peut-être Myriam, est-ce que...
Alors, en a d'autres, sur le plan santé du dirigeant, puisque j'ai plutôt cette casquette-là autour de la table, l'un des signaux très forts, c'est le fait de commencer à avoir des troubles de sommeil. En fait, en termes d'autodiagnostic, on sait très bien si on a bien dormi ou pas bien dormi.
Ça, c'est facile. Quand on se réveille le matin. C'est assez facile.
Donc, je dis toujours aux chefs d'entreprise ou aux porteurs de projet, voilà. Comment j'ai dormi? Est-ce que je me sens fatiguée ce matin? De manière ponctuelle, globalement, on régule son sommeil. Quand ça commence à devenir voilà, une nuit, deux nuits, trois nuits, où on a eu du mal à s'endormir, on a vécu des réveils nocturnes, c'est un signe qu'il faut ne pas négliger parce que rapidement, un chef d'entreprise peut créer ce qu'on appelle une dette de sommeil et rentrer, dans ce qu'a pu préciser Olivier, dans une fatigue qui commence à devenir chronique et donc dans le cercle vicieux de « je suis fatiguée mais en même temps je dois continuer à travailler et j'ai une pression parce que j'ai la pression financière, mon activité doit me permettre de dégager mon revenu. »
Cette croyance que travailler sous stress quand on est chef d'entreprise, c'est normal.
Eh oui, c'est l'un des pièges. Et c'est le piège majeur, c'est que le stress est banalisé hein, dans les organisations. Donc, il est aussi banalisé pour beaucoup de chefs d'entreprise et qu'il assimile le stress, en fait, à c'est du dépassement de soi. Il y a l'adrénaline derrière, donc ça m'incite à me dépasser. Et donc, du coup, ça devient complètement banal. Sauf que du stress chronique, ça peut générer... Voilà, différents signes, différents symptômes, parfois des maladies, et ça peut mener, c'est là où c'est très dangereux, c'est que ça peut mener à ce qu'on appelle en bon français le burn-out, c'est-à-dire l'épuisement professionnel. Donc, et les dirigeants ne sont pas exempts de ces situations-là. D'où encore le mot magique de cette émission, c'est la prévention.
Olivier, ça te parle, ce que vient d'évoquer Myriam? Et toi-même, peut-être en tant que chef d'entreprise?
Oui, alors il y a deux choses. Je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, tu as demandé tout à l'heure sur les signes qu'il faut pouvoir percevoir pour identifier si on est en difficulté ou pas. Et ils sont extrêmement nombreux. Et c'est très variable suivant la typologie de l'entreprise, son marché,
le caractère
l'organisation même de l'entreprise. Donc en fait, c'est tout ce qui nous paraît difficile à vivre, eh bien, il faut le considérer comme une première difficulté. C'est, comme disait Myriam, un problème de sommeil, mais ça peut être des choses beaucoup plus pragmatiques. Je le disais tout à l'heure, le carnet de commandes qui se réduit, c'est des clients qui ne payent pas, c'est plein de choses. Hein. C'est je suis en retard dans mes devis, j'arrive pas à fournir, j'arrive pas à recruter. Ça peut être des choses extrêmement variées qui peuvent... Si ça persiste dans le temps et que ça s'accumule avec plein d'autres problématiques, mais créer des problèmes à long terme sur l'entreprise et mettre en difficulté sa viabilité. Donc il faut être extrêmement attentif. D'ailleurs, c'est pour ça que le groupement de prévention agréé est organisé autour de lanceurs d'alerte qui sont extrêmement variés. On a l'URSSAF, la Banque de France, des institutions classiques. On a aussi les chefs d'entreprise eux-mêmes qui disent bah, « Tiens, j'étais avec tel collègue sur un chantier la dernière fois. » Il m'a fait part là, qu'il n'arrivait pas à suivre avec ses gars, il est en retard, ça n'a pas l'air d'aller lui. Est-ce que tu ne voudrais pas le recevoir? Voilà, c'est toutes ces petites choses qui sont importantes pour qu'on les accompagne suffisamment tôt. Après, sur la question du stress qu'a abordé Myriam tout à l'heure, il y a Olivier Torres que tu connais bien, hein, Myriam. C'est un chercheur du sud de la France qui est merveilleux. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, faites-le parce que c'est un moment de bonheur pour les chefs d'entreprise. Il nous parle du stress de manière assez remarquable en partant du postulat qu'il pourrait y avoir du bon stress et du mauvais stress. Puis finalement, il dit, non, en fait, il y a du stress. Point. Et si on fait l'état des lieux de tout ce que ingurgitent les chefs d'entreprise en termes de dose de stress, ils devraient tous être morts. C'est pas possible de vivre comme ça dans la durée. Et puis finalement, il contrebalance, parce qu'il a continué ses études, en se disant, mais qu'est-ce qui les fait vivre? Comment ils tiennent? Comment ils peuvent être heureux? Et en fait, c'est vraiment la raison d'être d'un chef d'entreprise, c'est j'ai un objectif et je mets tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Et quand j'y arrive...
Quoi qu'il en coûte, quelque part.
Presque quoi qu'il en coûte. Mais quand j'y arrive, en fait, ça annule tout le stress que j'ai pu avoir par ailleurs. Et cette réussite, cette réalisation de moi-même, eh bien finalement, ça me permet de vivre et d'être heureux dans ce que je fais.
Et pour compléter ce que dit Olivier, en fait, il tord le cou à l'idée du bon stress ou du mauvais stress en partant du postulat qu'en fait, il y a plutôt du stress qui est choisi et du stress subi. Mmh. Autant vous dire que depuis bientôt 3 ans, les dirigeants subissent du stress de par leur environnement, de par
extérieur,
les
sur lequel ils n'ont pas de prise.
Exactement.
C'est ça.
D'où l'importance du lâcher prise. Alors c'est pareil, ça se décrète
c'est un grand
pas.
Mot
c'est une,
ouais,
ce n'est sûr. Pas une injonction. Derrière, il y a des voilà, il y a des méthodes, etc. Donc c'est très compliqué. Et pour compléter, c'est vrai que les chefs d'entreprise ont voilà, c'est pour beaucoup c'est des croyances. Voilà, il y a leur expérience de vie aussi qui fait que certains capitalisent sur à un moment donné. On y reviendra tout à l'heure, mais des échecs ou des difficultés ou des erreurs. Donc, ils vont transformer ça en véritable ressource pour faire face. Et effectivement, un chef d'entreprise a cet ADN de rebondir face à une difficulté, etc. Pour autant, être chef d'entreprise, c'est énergivore. C'est-à-dire qu'il faut avoir une énergie constante. Et si on n'a pas ces temps de respiration, ces temps de repos pour soi-même, ou de faire appel, mais on y reviendra aussi, à des réseaux pour être accompagné, soutenu, libéré émotionnellement sa surcharge, eh bien c'est là où, sur la durée, ça peut rapidement rattraper. Malgré des situations d'entreprise ou économiquement, financièrement,
c'est viable.
Ça va.
Tout va bien.
Et c'est là où c'est le piège aussi. C'est de se dire, ma structure va bien, j'en vis, mais par contre, moi, j'ose pas
comment
dire que ça va pas bien.
Exactement. Du coup, ça me pose une question et ça me permet d'introduire Jean-Yves Germain, donc de l'association 60 000 rebonds, pour avoir son regard sur l'échec. Est-ce que, à un moment ou à un autre, positionner l'idée d'échouer le plus tôt possible, peut-être, dans son aventure entrepreneuriale, ne serait pas une solution, ou en tout cas une opportunité ou une ressource? Jean-Yves, qu'est-ce que vous remarquez, vous, au sein de l'association? Tu es très actif, toi, dans cette association. Vous recevez des entrepreneurs, donc post-liquidation, c'est-à-dire une fois qu'ils ont fermé, mis la clé sous la porte. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée?
Oui, bonjour. Ça m'amène à deux réflexions. À 60 000 rebonds, donc on accompagne les entrepreneurs après dépôt de bilan pour rebondir, comme le nom l'indique. Et donc, on a aussi pour vocation de, pas de banaliser, mais de changer le regard sur l'échec, d'en faire quelque chose de beaucoup moins dramatique que c'est vécu dans la plupart des cas, et pour vraiment en faire quelque chose de constructif. Mais ça me fait aussi penser que cette prévention dont vous parlez, elle est là aussi pour éviter le dépôt de bilan. On a accompagné des entrepreneurs qui ont dû déposer le bilan suite à un pépin de santé grave, cardiaque, par exemple. C'est typique de quand j'ai tiré beaucoup trop sur la corde et qu'elle s'est rompue. Et là, c'est pas seulement la santé du dirigeant, que d'un coup, c'est aussi la santé de l'entreprise. Donc, s'il n'y avait qu'une justification pour faire de la prévention, je pense à des dirigeants qui pourraient être tellement volontaires qu'ils s'oublient, bah, qu'ils n'oublient pas leur entreprise. Et qu'au moins pour l'entreprise, il fasse cette prévention et qu'il n'aille pas trop loin dans l'effort, mais
dans
le don de soi, j'ai envie de dire, dans le don de soi. Et donc ensuite, oui, en effet, on voit bien à 60 000 rebonds les impacts de l'échec négatif, je vous disais tout à l'heure. Ce stress, il disparaît. Si je réussis, il disparaît si le regard des autres me renvoie tout ce que ça peut apporter. C'est le phénomène aussi du burn-out pour tout le monde, hein, pas seulement pour les dirigeants, mais il est extrêmement amplifié si ça s'accompagne d'un échec et d'un regard des autres qui est culpabilisant, qui est stigmatisant. Et c'est ça qu'on travaille à accompagner, à corriger.
Voilà. Est-ce que dans votre expérience chez 60 000 rebonds, les entrepreneurs que vous accueillez t'ont paru, entre guillemets, d'avoir anticipé cette éventualité?
Alors, déjà, je ne fais aucune généralité, parce qu'il n'y en a pas deux pareils.
Bien sûr.
Tous les cas sont extrêmement différents. Mais non, évidemment. Mais je le comprends. Quand on entreprend, on n'entreprend pas pour liquider son entreprise. On entreprend pour réussir. Donc, on a évidemment rarement anticipé, ni soi-même, ni l'entourage. Comme on parlait tout à l'heure d'accompagnement et de solitude du dirigeant. Donc, ni soi-même, ni son entourage. Et dans l'entourage, je comprends aussi les collègues, autres entrepreneurs, mes clients, mes fournisseurs. Et ils ne m'accompagnent pas non plus là-dedans. Et donc, personne, au contraire. Mmh. Ce qui renforce, évidemment, les impacts.
Mmh. Olivier, un mot sur cette question, oui, avant qu'on conclue cette première partie.
Vous savez, il y avait un stage d'installation préalable qui était à la chambre de métier, qu'on regrette, malheureusement, qui était un bon outil en fait pour préparer l'entrepreneur. Et quand on se prépare à l'entreprise, il faut
évoquer
mais tous les dispositions qu'il faut prendre pour anticiper l'échec, la difficulté, le statut, la retraite également. Donc ces choses-là, c'était abordé avant, et c'est vrai qu'il faut regretter aujourd'hui qu'on n'ait pas assez d'outils pour parler de ces sujets-là, en particulier l'échec, parce que l'échec fait partie de l'entreprise. Mmh. Tous les chefs d'entreprise ont échoué tôt ou tard dans leur parcours. Ça ne veut pas dire que l'entreprise a failli, mais pour autant, tout le monde a eu des projets qui n'ont pas été jusqu'au bout, des difficultés, des moments de tension, des redressements judiciaires. Voilà, on a tous connu quelque chose, et d'ailleurs, si je dois passer un message, c'est que les chefs d'entreprise, entre eux, sont extrêmement bienveillants. Quand on ose dire, ben voilà, moi, j'y arrive pas en ce moment, comment tu ferais, toi ? Eh bien, tous les chefs d'entreprise
se soudent
réellement parce qu'ils ont connu ça et disent, ben, tu sais, moi, dans ton cas, je l'ai connu, j'étais dans la même situation. Ah bon ? Ben oui, et puis j'ai fait ça, peut-être que ça pourrait marcher pour toi. Puis si j'ai pas connu ça, j'ai un autre collègue qui l'a connu.
Merci beaucoup Olivier pour ce dernier appel. Je vous propose qu'on fasse une pause et qu'on reprenne ce sujet absolument passionnant dans notre deuxième partie, où on mettra peut-être plus l'accent sur d'éventuelles solutions, comment est-ce qu'on peut tisser des liens, et qu'on fasse aussi un focus sur l'échec et donc 60 000 rebonds un peu plus détaillé, puisqu'il y a énormément à dire sur tous ces sujets. Je vous propose de vous retrouver tout de suite après la coupure musicale.
Entreprendre ensemble. Découvrez les super pouvoirs des entrepreneurs. Au micro de Stéphanie Mécard.